carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Carrefour des Arts consacre une série d'émissions à l'œuvre ultime dans l'art, un rendez-vous que nous vous donnons désormais régulièrement avec le professeur Jacques Lubinet, notre intervenant qui a une double casquette, je vous le rappelle, celle d'hématologue, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie de médecine et celle de correspondant à l'Académie des Beaux-Arts. Après avoir évoqué dans deux émissions précédentes les dernières œuvres de Matisse et de Chardin, Jacques Lubinet, vous avez choisi de vous pencher sur le sort de Picasso, peintre qu'on ne présente plus, fondateur du cubisme avec Braque et compagnon d'art du surréalisme. Picasso crée jusqu'à ses 92 ans et en vous intéressant à l'œuvre ultime de Picasso, Jacques Lubinet, vous vous êtes penché plus particulièrement sur les 10-15 dernières années de sa vie. Et leur première question, dans quel cadre Pablo Picasso évolue-t-il dans les années 60? C'est-à-dire à l'époque où il va sur ses 80 ans, Jacques Lubinet.
La réponse est donnée par ceux qui ont écrit sur lui, dont on va parler, Pierre Dex d'une part et Pierre Cabanne d'autre part. Et ces années s'appellent souvent Jacqueline ou la liberté du grand âge. Jacqueline, c'était sa dernière femme. Et la liberté du grand âge signifie que Picasso ne voulait plus voir personne. On disait même que Jacqueline l'enfermait. En réalité, Picasso vieillissait, il était fatigué. Il voulait consacrer sa vie uniquement au travail et au sommeil. Et tout ça se passait, non pas à Vauvenargues, où il allait peu ou pas, mais au Mas Notre-Dame de Vie, à Mougins, qui est la maison qu'il a adoptée lorsqu'il a quitté la Californie. Alors, solitude. Solitude parce que tous ses amis sont morts. Matisse est mort en 53, Braque et Cocteau en 73, Sabartès, son vieil ami, en 68, et encore une fois, Jacqueline est là pour le protéger. Il y a eu une période d'interruption, une période de maladie pendant laquelle il a été à Paris en octobre 65 et au printemps 66. Il avait une intervention sur la vésicule biliaire qui s'est bien passée. Il revient après à Mougins. Il a 85 ans et il se remet au boulot. Et pendant 6 mois en 68, il va graver plus de 360 burins. Donc, solitude, travail immense, sans personne. Alors, son travail, qu'est-ce que c'était que son travail? C'était essentiellement de la gravure, du burin. Et il a fait venir, ou sont venus avec lui, les frères Crommeling, qui étaient ses graveurs, qui sont venus de Paris pour s'installer à Mougins et qui n'arrivaient pas à suivre son rythme. Et là, il va développer deux thèmes, le mousquetaire et une explosion d'érotisme. Le mousquetaire, c'est un thème qu'il a trouvé, je ne sais pas très bien où, je ne sais pas très bien comment.
Mousquetaire espagnol.
Espagnol, parce qu'il faut en effet le côté espagnol et le côté revanchard, le côté bataille, le côté combat, le côté duel. C'est très important pour Picasso. Et puis c'est un côté jeune. Et ça, ça le rajeunit. Donc, d'admirables mousquetaires qui seront montrés à l'exposition qui a été faite de lui en 70 en Avignon, massacré par la critique française. Il faut quand même voir que ce grand peintre était massacré en Avignon par la critique française. Massacré. C'est quand même invraisemblable, si vous voulez. Bon, donc, une gravure sur ses mousquetaires, il en fait des voyeurs, vous voyez. Il en fait des personnages qui veulent se battre, qui sont obsédés par les femmes, mais avec quand même une certaine noblesse espagnole. Beaucoup de jeux de cape, beaucoup de jeux de chapeau, beaucoup de jeux d'épée. Et le deuxième thème...
qui va avec.
C'est l'érotisme. Et il paraît, d'après Pierre Dex qui a vu ces gravures, cet érotisme était absolument explosif. Explosif.
Pourquoi justement ce thème-là de l'érotisme apparaît-il à ce moment-là?
Non, il a toujours apparu. Si vous allez au musée Picasso à Barcelone, il avait 17 ans, peinture uniquement érotique. Ça a été vu à Paris, dans une des dernières expositions de Paris. Mais enfin, il a toujours été. Mais alors là, vraiment, ça explose. Et je vous lis quand même le texte de, je crois que c'est de Cabanne. Dans le chant d'amour, l'immo-sexe dont il développe les épisodes, l'Espagnol s'enfonce dans le mystère dont nous ne connaissons pas grand-chose, ni des motivations, ni du continu, mais dont on peut penser que sa mise en acte à même le cuivre est liée à la solitude désespérée de la vieillesse sur qui pèse des approches de la mort. Voyez cette espèce de relation très espagnole entre la femme, la mort, et l'obsession sexuelle. Ça, c'est très, 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 très Picasso. Voilà. Donc, une explosion de tableaux, une explosion de gravures plus que de tableaux. Alors, puisque nous avons décidé de nous intéresser dans ces émissions à l'œuvre ultime, c'est très difficile de trouver l'œuvre ultime. Parce que tous les gens qui l'ont lue en désignent une autre.
D'autres y ont réfléchi effectivement avant
vous. Il y a un tableau que vous m'avez apporté là, qui est superbe, qui est le jeune peintre, qui est un petit peintre de 20 ans, qui a aussi le chapeau qui pourrait être espagnol, mais qui tient à la main non pas une épée, mais un pinceau. Et tout ça coloré vaguement en bleu, admirable tableau de jeunesse. Eh bien, Dominique Bozzo avait voulu en faire l'œuvre ultime, quand il a revu toute l'œuvre de Picasso. Il y a aussi le voyeur qui va vouloir être recherché. Il y a aussi le vieillard assis qui fait figure d'autoportrait. Et Jacqueline avait dit à Malraux, et Malraux l'a réécrit, qu'à la fin de sa vie, Picasso était tenté par le mousquetaire à l'oiseau, le 13 janvier. Un de ses amis américains, un des rares qui pouvait pénétrer à Notre-Dame-de-Vie à Mougins, pensait que le nu couché et tête d'un nu tête d'homme à l'oiseau était une des dernières œuvres. Et Hélène Parmelin, qui est une de ses copines, si je peux dire, même chose, a pensé que c'était l'œuvre ultime. Donc discussion, et discussion par des gens qui connaissaient admirablement Picasso. En réalité, je crois que cette œuvre ultime a été décelée par Pierre Dex. Un mot pour Pierre Dex, grand critique français, héros de la Résistance, immatriculé dans un camp allemand. Heureusement, il a survécu parce qu'il parlait l'allemand, donc je crois qu'il y a joué un peu l'interprète. Et quand il revient en France, il est présenté à Picasso par Éloire. C'est pas n'importe qui est présenté par Éloire à Picasso. Et il voit une toile que Picasso qui s'appelle Le Charnier, que Picasso avait peint en novembre 45, mais qui a été peinte avant qu'on voit les camps de déportation. Et on voit un couple qui est par terre avec la table qui est tombée. Et c'était déjà Les Charniers. Alors cette table n'a pas été appréciée par les Français. Et finalement, elle a été rachetée par un Américain qui l'a bien sûr apporté aux États-Unis et qui va le redonner ensuite au Musée d'art moderne de New York. Donc, vous voyez, discussion. Discussion pour savoir quelle est l'œuvre ultime. Parce que ça pouvait être Le Charnier, qui serait l'opposé de Guernica. Le Guernica des camps de la mort par rapport au Guernica de l'assaut des Allemands contre une ville qui n'avait rien à faire avec la guerre, qui était Guernica. Vous voyez, c'était... Bon, en réalité, je crois que c'est Pierre Dex qui a trouvé la solution, ou il ne la cherchait même pas, mais il décrit une de ses dernières visites à Picasso, et il donne la date. Il va voir Picasso le 4 juillet 1972, et il va le voir pour travailler. Ils faisaient ensemble, je crois, le catalogue raisonné de la gravure, ou un catalogue raisonné d'une partie de son œuvre, je ne sais plus laquelle. Il travaille, et puis Pierre Dex s'en va, et au moment où il allait partir, Picasso le reprend par la manche et lui dit « Tu sais, j'ai fait un dessin, je crois que j'ai touché là à quelque chose, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà fait. » Ils vont ensemble dans une pièce obscure, ils ouvrent les volets et Pierre Dex voit cet autoportrait qui est appelé maintenant « Autoportrait face à la mort ». C'est en réalité le dernier autoportrait de Picasso et il est terrifié.
Et vous m'aviez dit d'ailleurs qu'il en avait fait plusieurs d'autoportraits.
En fait, c'était une série. Il n'a vu que celui-là. Mais ça, c'est important de le dire, parce que Picasso, il travaillait toujours par série. Donc, il y en a eu d'autres qui étaient peut-être moins dramatiques, plus dramatiques, je ne sais pas. Mais là, il en a vu un, et Pierre Dex est complètement terrorisé. Terrorisé. Et il se demande si, en réalité, Picasso n'a pas déjà eu une menace d'une attaque cérébrale et que ce n'est pas le souvenir de cette attaque. Il en sort... pas très content de ne pas avoir beaucoup parlé, terrorisé par ce qu'il a vu, et puis 3 mois après, il revient pour de nouveau travailler avec lui. Picasso était très fatigué. Picasso a même voulu couper l'entretien en disant « j'ai envie d'aller dormir un petit peu », Pierre Dex a dit « attendez un peu », et puis finalement, ils ont travaillé ensemble, et de nouveau, ils se quittent. Et de nouveau, Picasso croit qu'il a oublié de lui montrer ce dessin, c'est un dessin, hein, et le fait revenir, et lui remonte le dessin. Et alors là, il lui redit « Découpage du thème précédent, je lis ce qu'a écrit Pierre Dex, en facettes contrastées, souvent par des hachures violentes. Picasso reprend la gamme des couleurs bleu de Prusse, vert et mauve du précédent, durcit les traits bistres, y ajoute des traits rouges, appuie les lignes mauve-grenat en haut du crâne vert-bleu. » C'est en quelque sorte, conclut Pierre Dex, le déplacement par l'art de ce que la séquence précédente avait de direct, ce qui explique peut-être que ce portrait y a mis fin. Ce texte est très important parce qu'il montre comment travaillait Picasso. Il fait des séries. Puis quand il voit qu'il a résolu le problème, il n'y a plus de séries, on s'arrête. Et de nouveau, alors Pierre Dex avait un peu préparé la réponse. Qu'est-ce qu'il allait dire ? Et il se souvient, ou fait semblant de se souvenir, que d'abord il donne son impression, j'ai de nouveau l'impression, parce que Picasso se met à côté de ce dessin pour montrer qu'il est ressemblant.
Il attend vraiment un retour de Pierre Dex.
Et ce retour, il lui dit qu'en réalité, il avait utilisé les mêmes couleurs, il avait toujours fait des autoportraits au moment important de sa vie. Et il signale la mort de González, la guerre, tout ça. À chaque fois, il y a des autoportraits. Et à chaque fois, Picasso se remet en cause, se redessine, se repeint à ces grands moments. Et puis, il conclut, j'ai de nouveau l'impression qu'il regardait l'image de sa mort en face, en bon espagnol, et il ne faisait là qu'anticiper sa mort prochaine. Ce qu'il y a d'important, c'est que jamais il n'a parlé à Jacqueline de la mort. C'était un couple dramatique, où on faisait semblant tous les deux d'être heureux. Lui dans le travail et dans le sommeil, et elle dans le silence.
Et dans l'accompagnement.
Protection. Voilà, sans jamais en parler. Et puis la fin, on la doit à Pierre Cabanne. Finalement, un jour, il est très essoufflé, elle s'affole, elle appelle son médecin, qui vient vite, et qui était devenu un compagnon de Picasso. Le médecin téléphone au consultant parisien qui va venir. Et puis Picasso dit à son médecin, vous êtes resté célibataire. Et il lui dit, c'est dommage, vous avez tort de ne pas vous être marié.
C'est utile.
C'est gentil. Hein, c'est gentil. D'autant qu'on voit que d'habitude, les rapports de Picasso avec la femme étaient follement érotiques, follement amoureux, mais très violents. Eh bien là, non. Là, c'est utile. C'est même pas très bien de dire c'est utile, hein, je trouve. Mais enfin, ça montre là quand même l'accord des deux. Et dans un silence, jamais, et Jacqueline l'a redit à Malraux, Jacqueline ne lui parlait de la mort et jamais elle ne lui a parlé de la mort. C'est un sujet totalement interdit. Et il est mort peu de temps après, le même jour, il tend la main à Jacqueline et il meurt le 7 avril 1973. Alors, le tableau, ce fameux dessin, eh bien malheureusement, il n'est plus chez nous. Picasso avait voulu, pendant sa vie, s'en débarrasser. Il disait, ça je...
Il aurait pu détruire son œuvre, tout simplement.
Ah oui, mais on ne détruit pas. Picasso ne détruisait pas, il gardait. Quand il ne voulait pas vendre, il gardait. C'est pour ça que la France en a beaucoup, et qu'il avait gardé 5000 toiles, dont un certain nombre sont revenus dans les musées français. On a une chance incroyable, qu'il ne fasse pas de testament, et qu'au fond, ça se règle à l'amiable entre ceux... Il aurait pu le donner au Parti communiste, il aurait pu le donner à la République espagnole, il aurait pu le donner à ses enfants, il aurait pu le donner à n'importe qui ou à ses amis. Il n'avait plus d'amis, malheureusement, parce qu'il était vieux, mais enfin, il aurait pu le donner à plein d'autres gens, et finalement... Ces tableaux sont venus à la France. Alors, pas l'autoportrait a été mis en vente par Louise Léris, qui était sa marchande. Il a été mis en vente en décembre 72, 2 ans avant sa mort. Et Pierre Dex l'a vu là. Il a dit, il faut absolument qu'on l'achète. Alors, il a prévenu les musées français, qui sont restés un peu différents. C'était la période où on n'aimait pas trop Picasso, où il était de bon goût de dire qu'il était gâteux. Vous voyez, ça avait été la mauvaise réputation que lui avait faite l'exposition d'Avignon, qui était superbe. Donc, ils vont en refaire une autre après sa mort. Mais la première, il a été éreinté par la critique. Donc, ça n'intéressait personne. Et c'est un peu triste, j'ai rien contre les Japonais, mais il a été finalement acheté par une télévision japonaise. Le problème, c'est que je crois qu'il permet de la diffuser beaucoup et que c'est retrouvé dans tous les bons livres d'art. Alors voilà, voilà cette fin glorieuse, solitaire, où il ne fait que ce qu'il veut, et il le fait tout seul. C'est admirable.
Pour revenir à cet autoportrait, est-ce une œuvre ultime dans le sens où on sent la mort planer ? Est-ce parce que ça fait partie, lui, Picasso dit que voilà, là cette fois-ci je fais cet autoportrait parce que c'est un moment clé de ma vie ? Ou est-ce parce que c'est l'une de ses dernières œuvres ?
Ben, c'est les deux. Premièrement, c'est une de ses dernières œuvres, mais enfin, ses dernières œuvres, vous voyez, là, on est 2 ans avant sa mort, à la fin, je crois qu'il ne travaillait plus beaucoup. Et puis, je crois que, qu'est-ce que vous voulez, le meilleur jugement qu'on puisse avoir sur la peinture, c'est le peintre lui-même. Et ce sera exactement la même chose pour Matisse, ce sera exactement la même chose pour les grands. Il désigne, voilà ce que j'ai fait très bien. Matisse, vous vous souvenez, je ne sais pas si on a dû déjà en parler, Matisse dit, voilà, il écrit à son fils, j'ai fait mon chef-d'œuvre. Eh bien là, il prend son copain, son petit copain, qui est beaucoup plus jeune que lui, qui a l'âge de son fils, qui considérait Pierre Dec, c'était un peu le fils spirituel de Picasso. Il est resté d'ailleurs, Et il va participer, heureusement, à la sélection des Français, quand ils vont, dans ses multiples œuvres, dans tout ce qui reste, prendre ce qui va appartenir au musée français et le reste le distribuer à la famille. Il va être un de ceux, même a-t-il dit, j'étais tellement lié à Picasso que les tableaux que je prenais concernaient peut-être plus lui-même que la peinture. On disait beaucoup, ça c'est pas un tableau pour les musées, comme si les musées ne pouvaient pas non plus montrer la vie du peintre. Mais à partir du moment où Picasso dit à quelqu'un, regarde, c'est très important, je crois que nous, mauvais spectateur, on a qu'à se taire, et puis on regarde le tableau, et le tableau est terrorisant.
Alors on arrive petit à petit au terme de notre émission, juste peut-être quelques mots pour préciser que Pierre Dec, donc, dont vous avez parlé, est historien, critique d'art, et il fait partie des derniers vivants à avoir bien connu Picasso, et vous l'avez rencontré, il faut
oui,
préciser, avant de...
Il a eu la gentillesse de m'en savoir.
Avant de réaliser cette émission.
Il a la... Il est beaucoup plus jeune qu'il n'est en réalité, il est extraordinairement lucide, extraordinairement précis. Il m'a montré le catalogue de l'exposition d'Avignon, et il a sorti le catalogue, et comme toute personne très soigneuse, première page du catalogue, le billet. Il prenait des billets comme tout le monde pour voir l'exposition. Vous voyez, ça on voit le maniaque, dans le bon sens du terme, de la bonne peinture. Bon, et pour montrer qu'il en avait été témoin, alors il l'a écrit. Il a écrit sûrement autre chose, mais moi je n'ai lu de lui sur ce sujet que La vie de peintre de Pablo Picasso, qui est édité au Seuil en 77, et puis ensuite, en 95, il réécrit un dictionnaire Picasso et il reprend pratiquement, mais d'une façon un tout petit peu différente, la fin et ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que je ne sais pas dans ce que je vous ai dit ce qui appartient à la première ou à la deuxième visite. Honnêtement, je ne sais pas. Mais enfin, les deux thèmes sont liés, l'un continue l'autre, et dans le dictionnaire, il dit deuxième séquence. Vous voyez, comme si on restait dans le même monde.
Et puis, donc, troisième ouvrage qui vous a aussi servi à préparer cette émission, c'est celui de Pierre Cabanne.
Alors, Pierre Cabanne, c'est un extraordinaire historien, totalement méconnu aussi. Pierre Dec, c'est quand même un peu connu, puis il a dirigé les lettres françaises. Pierre Cabanne a écrit sur beaucoup de gens. Et il a écrit 4 livres sur le siècle de Picasso en 1975, que vous pouvez retrouver partout. Et c'est chez lui que j'ai pris la conversation entre Picasso et son médecin. Mariez-vous, ça peut être utile.
Eh bien, merci, professeur Binet, de nous avoir parlé de cette œuvre ultime de Pablo Picasso. Et puis, nous nous retrouverons prochainement pour parler de Manet, si vous voulez bien. Merci et à bientôt, professeur Binet.